Audiolib présente La Villa des Térébintes, Les Noces de Soie, tome 2, de Jean-Paul Malaval. Lu par Colette Sodoyer. Chapitre 1. Automne 1894. Après la mort de son homme, Mariette Andromas découvrit un sentiment inédit, l'ennui. Sans tarder, elle comprit que cette mélancolie n'était que le fruit amer de son état contemplatif auquel il lui faudrait échapper. Mais facile à dire, Théodore était tenace en son cœur. Son fantôme hantait ses nuits blanches. Pourtant, ce n'était pas faute de l'avoir fait souffrir de son vivant, persécuté même. Mais par un singulier paradoxe, il n'est que les maris tyranniques qui sont regrettés, puisque les autres s'estompent dans la mémoire à force qu'on ne puisse rien leur reprocher. Il ne se passait pas un jour sans que Mariette ne dise d'une voix soupirée « Il m'a tourmenté, mon diable d'homme. Il m'a blessé, il m'a humilié, le sacré paon. Mais au moins, il était là, si vivant. » La magnane Arelle de Fombélair descendait chaque fin de jour au cimetière pour célébrer son culte. Théodore était allongé dans le carré des protestants. Elle fleurissait sa tombe autant qu'elle le pouvait avec les trésors de la saison, présentement des pompons de chrysanthème, des asters aux pétales étoilés roses ou blancs. C'était une drôle d'idée en vérité. Théodore n'avait jamais aimé les fleurs ni les prières. N'avait-il pas mis lui-même, sans prévenir, un terme à son existence, comme l'avait fait son père? Forcément, ce n'était pas pour qu'on le regrettât, pour qu'on tressât des chagrins sur sa tombe en terre rocailleuse, rude et aride, comme celle du plateau des Gras, où il avait trimé durant son enfance au cul des chèvres. « Qu'au moins la mort me laisse en paix !» avait-il songé à l'instant de plonger dans l'Ardèche, sous le pont de Rochemar. Mais pour cela, il avait l'éternité devant lui. Ce serait sa gloire que l'oubli le garda des médisances. Et même si sa pauvre femme s'escrimait aujourd'hui à raviver la flamme du souvenir, elle finirait, elle aussi, par être emportée. Et ce serait alors un triomphe. On ne risquerait point que ses enfants, Eugénie, Pauline et Silvius, s'en viennent dans le carré des protestants. Tant de haine laissée derrière lui le protégerait à jamais de sa descendance. Tant de colère, de ressentiment et de détestation. C'était mieux ainsi. Il avait travaillé sans relâche à cette grande œuvre, comme d'autres à leur postérité. L'existence de Mariette était chiche. Un repas par jour, du pain et du fromage, quelques fruits, et le dimanche un verre de vin. Elle était sèche, comme un arbre mort, décharnée, mais toujours gracieuse dans sa manière de se mouvoir, entre la magnanerie et le repère de Cujol, où elle montait une fois par semaine. Sa vêture était élégante, simple et nette. Elle n'avait jamais dérogé à ses principes, bien que la vie eût perdu tout intérêt pour elle. Sans doute entrerait-elle ainsi dans la mort, avec ce visage lisse et pâle et ce sourire lointain des gens qui n'attendent plus rien de l'existence. Mariette n'avait pour seul voisinage que son domestique, Gianno Fausto, un fils d'Italien qui avait émigré en 1848. Après la mort de son mari, la question de son avenir à la magnanerie s'était posée. Fausto avait insisté. Pour la mémoire de Théodore Andromas, il voulait poursuivre l'activité de la ferme. Mariette avait finalement cédé. Même si je n'ai pas de quoi te payer? Qu'importe, on s'arrangera. Qui connaît mieux que moi la chèvrerie et la bonne manière de déplumer les mûriers? Gianno Fausto avait simplement demandé le droit de dormir dans la maison, sous les combles. Jusqu'alors, on l'avait logé dans le réduit obscur d'une grange. Le domestique l'avait arrangé à sa façon. Une simple paillasse tenait lieu de lit et un agencement de caisse d'étagère. « Maintenant que je suis